Et avant d'ouvrir notre Bible et d'entendre les textes que je vais vous lire, je vous invite à prier. Seigneur, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui fais crier et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple et murmurer la sagesse des proverbes, Dieu vivant, qui a mis le Magnificat dans la bouche de la petite Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre. Toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Esprit, rends vivantes en cette heure ces paroles, afin qu'elles deviennent ta parole. Amen. Et pour ce dimanche, je vous propose trois textes bibliques. Le premier se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, les versets 43 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent ». Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et puis, dans la première lettre de Pierre, les deux premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilés, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu, le Père vous a choisi conformément au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part grâce à l'Esprit Saint pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Et toujours dans la lettre de Pierre au chapitre 2, les versets 4 à 10. Approchez-vous de lui, lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu la miséricorde. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Alors j'ai choisi ces textes en fait parce que la plupart d'entre vous le savent. Je reviens d'Arménie et finalement, bon, je ne vais pas trop vous parler de l'Arménie, mais un petit peu quand même, ce voyage m'a fait penser à de nombreuses choses et j'avais envie de les partager avec vous. Et en fait, c'est vrai que quand je chemine, que je voyage, de nombreux textes bibliques me viennent et essayent de nourrir mes réflexions sur ce que je ressens. Donc, vous l'avez entendu certainement à la radio, à la télévision, il y a tout juste une semaine, le 24 avril était commémoré le 100e anniversaire du génocide des Arméniens, le début du génocide. Et quelques jours avant, donc, j'étais en Arménie, ce petit bout de terre, ultime refuge pour les Arméniens dispersés à travers le monde. Ceux qui me connaissent, donc, la plupart d'entre vous, connaissent aussi mes origines arméniennes et que cela a une grande importance pour mon identité. Mais ces commémorations, en dehors de mes réflexions personnelles, à mon avis, peuvent nourrir notre réflexion à tous. Cette commémoration du centenaire, ici et là-bas, dans le monde entier, cela m'a rappelé un message essentiel, message de l'Évangile. On ne peut jamais se contenter de vivre dans le passé. On a toujours le choix. On est même invité sans cesse à se tourner vers l'avenir. C'est le message même que l'on trouve déjà dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire du peuple hébreu. Vous savez, ce petit peuple de rien du tout qui a su garder sa foi envers et contre tout. Ce petit peuple qui, malgré le choc ultime en 587, vous allez me dire c'est très vieux, mais justement, ça a encore plus de sens. 587 avant Jésus-Christ, et ce petit peuple, grâce à sa foi, est encore vivant aujourd'hui. Ce peuple hébreu qui, malgré le choc ultime, donc, a été la prise de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ, la destruction du temple, leur dispersion, ils sont déjà en diaspora à ce moment-là, va tout de même continuer à exister et à se construire parce qu'ils veulent conserver leur foi, parce qu'ils ont confiance dans leur Dieu. Cette épreuve, au lieu de les abattre, va au contraire leur permettre d'avancer de nouveau. Cette épreuve va avoir un débouché, va avoir comme conséquence le fait qu'ils se regroupent entre eux et qu'ils réfléchissent à ce qui leur est arrivé. Et là, ils sont quelque chose d'absolument génial, je trouve, et puis qui peut nous nourrir, nous aussi, c'est que cette épreuve, la chute de Jérusalem, le fait qu'il soit chassé, que le temple soit détruit, au lieu de dire « Eh bien, notre Dieu est un Dieu nul, il n'a pas su nous protéger. » C'est ce que font, en général, à cette époque-là, tous les autres. Lorsqu'ils sont vaincus, ils changent de Dieu, puisque finalement, leur Dieu est nul. Et non, au contraire, ils font un travail d'introspection et ils disent « Eh bien non, c'est pas Dieu qui est nul, c'est nous. C'est nous qui, par nos actions, n'avons pas su nous mettre à la hauteur de ce que Dieu attendait de nous. Et c'est à cause de nous que finalement ce malheur advient. Et souvent, dans la vie, dans nos propres vies même, de manière intime, eh bien on a tendance à mettre la faute sur les autres. Sur Dieu, c'est assez facile, il n'est pas trop là pour se défendre, en tout cas, quand on ne veut pas l'entendre, on ne l'entend pas. Eh bien, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Eh bien, de temps en temps, eh bien, l'épreuve, peut-être qu'on ne l'a pas méritée, certainement même, il ne l'avait pas méritée. Mais l'épreuve est là, il faut l'affronter et pas essayer de toujours rejeter sur l'autre. Alors, une fois qu'ils avaient fait ce constat, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont mis par écrit leur vie de peuple. Et cet écrit, en fait, ça a donné tout simplement l'Ancien Testament. Cet Ancien Testament qui va se substituer à la terre. On peut dire aujourd'hui que l'Ancien Testament, c'est la patrie portative du judaïsme. Où qu'il soit, eh bien, le peuple juif peut adorer son Dieu en lisant tout simplement les Écritures. Tout simplement, ça peut être plus complexe. Eh bien, nous sommes aussi inscrits là-dedans. Ils ont fait une autre chose aussi. Ils ont remplacé un lieu saint, le temple qui n'existait plus, par un temps saint, le Shabbat. C'est-à-dire que partout où on est, eh bien, chaque samedi, on s'arrête et on adore Dieu. Alors, peut-être que nous, chrétiens, nous avons perdu ce sens-là, encore que le dimanche s'est substitué de manière un peu différente. Mais partout où on est, on a un écrit qui est notre relation avec Dieu, la Bible, et nous avons toujours un temps pour adorer Dieu. Peu importe le lieu, peu importe la terre, nous pouvons continuer à adorer Dieu. C'est là le message de l'Évangile, à mon avis, qui permet d'avancer. Jésus, lui, n'aura de cesse de reporter ça, de raconter ça. D'ailleurs, la notion de terre n'existe pratiquement plus dans le Nouveau Testament. La seule terre, eh bien, c'est le monde, c'est l'univers, c'est le monde entier auquel nous sommes appelés à aller, à nous disperser pour propager cette bonne nouvelle, cette bonne parole. Mais dans le Nouveau Testament, le Christ nous donne un chemin pour affronter l'adversité et se traverser les épreuves. À mon avis, ce passage que j'ai lu dans l'Évangile selon Matthieu est tout à fait cela. Lorsque le Christ appelle à aimer son ennemi, il ne s'agit pas de le prendre dans ses bras, de le serrer très fort et de lui dire « Ah, oh, qu'est-ce que je t'aime, t'es le meilleur ». Non, ce n'est pas du tout ça. Lorsque le Christ nous invite à aimer nos ennemis, en fait, il nous invite à avancer. Il nous invite à ne pas nous laisser enfermer dans la haine. Aimer son ennemi. Alors déjà, c'est complètement paradoxal, parce que quand on aime son ennemi, ben, c'est plus son ennemi, déjà. Mais la première chose à noter, c'est que lorsqu'il dit « aimez vos ennemis », il prend acte de la réalité de nos vies. Oui, dans nos vies, nous avons des ennemis. Des ennemis à affronter. La vie, eh bien, le monde, on pense souvent que le Christ, avec son message d'amour, veut construire un monde presque mielleux, en quelque sorte. Le monde, c'est pas ça. Le monde, c'est pas le pays des bisounours, et ça, le Christ le sait bien, et il en mourra, parce qu'il sait cela. Le monde, eh bien, dans notre monde, il y a des ennemis à affronter. Et peut-être que, quand il dit aimer les ennemis, c'est aussi une manière de nous inviter à savoir affronter le monde, savoir que le monde est dur et que nous avons des ennemis. D'abord, cela nous invite aussi à identifier nos ennemis. Vous savez, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Et parfois, c'est nous-mêmes qui sommes notre propre ennemi. Donc, le Christ, lorsqu'il invite à aimer ses ennemis, nous invite surtout à changer notre regard et avant tout à ne jamais nous laisser enfermer dans la haine, dans cette volonté de détruire l'autre, parce que cette volonté, la haine, nous détruit nous en premier. Vous savez, je le répète assez souvent, mais bon, la loi dans la Bible, c'est pas quelque chose qui est fait pour nous enfermer, pour nous contraindre. Non, la loi, c'est toujours une loi qui nous amène à être libérés, comme le peuple hébreu a été libéré, et d'ailleurs, comme c'est énoncé si bien au début des 10 commandements, « C'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays de la servitude. » Lorsque Christ énonce une loi, ce n'est pas du tout pour nous contraindre, mais au contraire, c'est fait pour que nous puissions vivre et affronter la vie. En effet, aimer, c'est peut-être le meilleur chemin pour continuer à vivre, ne pas rester enfermé dans nos haines, dans nos rancœurs. Alors c'est parfois difficile dans nos propres vies. C'est encore plus difficile lorsque l'on parle de communautés entières. Et j'avoue que lors de ces commémorations du 100e anniversaire, quelquefois j'étais profondément blessée parce qu'il est vrai que la Turquie n'a jamais reconnu le génocide. Mais je ne peux entendre, même si je veux continuer à me battre pour ça, je ne peux entendre les gens qui disent « tant que le génocide ne sera pas reconnu, nous ne pourrons pas vivre ». Eh bien ça, je pense que c'est une faute. C'est complètement contraire à l'Évangile. Parce que dans ces cas-là, ça veut dire qu'ils ont gagné, si on ne peut pas vivre tant qu'ils n'ont pas reconnu. On peut continuer à avancer, à vivre, malgré tout, contre tout, et se dire que finalement, la vie continue. Et elle continue depuis 100 ans pour les Arméniens, elle continue depuis bien plus longtemps pour d'autres peuples qui ont été on a essayé de les balayer de la terre. Non, en réalité, il faut continuer à vivre et à essayer de tendre la main à l'autre, à essayer le dialogue, malgré tout, contre tout. C'est ce qui se passe aujourd'hui également entre Turcs et Arméniens. Ça existe et je pense que, d'ailleurs, la position des Arméniens de la diaspora n'est pas tout à fait la même que ceux d'Arménie, qui, eux, cherchent tout de même la paix et à renouer le dialogue avec leurs voisins. Donc, on voit aujourd'hui que aimer son ennemi, c'est la voie. La voie de l'amour est toujours la bonne voie. Ce n'est pas la voie où il faut s'écraser, non. Aimer, ça ne veut pas dire « j'accepte tout ». Aimer, ça veut dire être capable
de tendre la main et de se parler. Et ça, à mon avis, c'est essentiel. Aimer, c'est refuser la haine, refuser de dire que, à cause de l'autre, cet autre que je hais, pour lequel j'ai tant de rancœur, que moi-même, je n'arrive pas à avancer dans ma vie. Refuser de haïr, c'est la voie qui nous ouvre à la vie, à nous tous. Mais pour revenir à cet Orient qui nous fascine, parce que vous savez, en Arménie, c'est quand même un carrefour de l'Orient. Et aujourd'hui, on rencontre les peuples qui sont persécutés. On rencontre, au détour d'une route, ces Yézidis, vous savez, c'est ce peuple, ou plutôt ces tribus qui ont une très très vieille religion, avant le mazdéisme, donc une religion qui remonte à 3000 millénaires, et qui sont persécutés, qui ont toujours été persécutés, évidemment. Eh bien, il y en a de nombreux qui vivent en Arménie. Lorsqu'on parle avec eux, on comprend combien encore aujourd'hui les persécutions sont quelque chose de fort. Et puis, il y a tous ces réfugiés syriens en Arménie, d'origine arménienne, qui viennent là, avec qui on parle. Et du coup, l'actualité vous saute à la figure, vous rappelant combien tous ces chrétiens d'Orient sont persécutés, ces chrétiens d'Afrique aussi, aujourd'hui. Ces chrétiens sont persécutés, enfin, je ne parle pas des yézidis, mais bon, tous ces non-musulmans, tous ceux qui s'opposent à une espèce de quelque chose, de système qui voudrait réduire l'autre uniquement à une foi, un seul credo, alors que nous-mêmes, entre chrétiens, nous sommes capables de dialoguer, pas toujours, mais on essaye. Donc tous ces chrétiens qui sont persécutés. Et lorsque j'étais là-bas, c'est vrai qu'on va en Arménie, comme on allait avant, malheureusement on ne peut plus y aller, en Syrie, pour visiter Palmyre, Alep, en Irak, pour visiter les vestiges mésopotamiens, et on va en Arménie pour visiter ces magnifiques monastères. Mais ces pays ne se réduisent pas à des pierres. Et c'est là que vraiment j'entends ce message dans la lettre de Pierre qui nous dit « Vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes des pierres vivantes. » Parce que oui, aujourd'hui, les pierres, c'est bien, ça nous rappelle un passé plus ou moins glorieux. Mais ce qui est important, c'est de savoir que dans ces pays vivent des hommes, des femmes, qui souffrent, qui sont persécutés, mais qui sont pierres vivantes parce qu'ils résistent. Ils résistent parce qu'ils ont la foi, cette foi essentielle. Et cette première lettre de Pierre, qui a été écrite il y a presque 2000 ans maintenant, nous rappelle que ces persécutions ont toujours existé. La lettre de Pierre est en quelque sorte en écho avec ce que nous vivons aujourd'hui. Ce texte s'est fait parole pour nous, nous offrant en quelque sorte son verbe pour dire tout simplement ce que nous ressentons parfois sans pouvoir l'énoncer. Parce que devant le malheur, la souffrance, c'est bien difficile de savoir comment parler, comment se positionner. Ce texte, vous l'avez entendu, commence par un oxymore, les pierres vivantes, car comment cet élément minéral qui n'évoque en rien le vivant peut être vivant? Eh bien, c'est la puissance de Dieu qui va mettre la vie là où il y a l'inerte, la lumière, là où il y a les ténèbres. C'est un message d'espérance qui est adressé à ces chrétiens qui souffrent, peut-être pas comme ils vont souffrir encore plus au IIIe siècle, au moment des persécutions d'Odès, mais qui déjà souffrent, sont soupçonnés de bien des maux que peuvent bien signifier leur réunion où ils partagent le pain et le vin, qui mangent, paraît-il, un corps et qui boivent, paraît-il, du sang. Ils sont accusés d'anthropophagie. Et puis surtout, ils menacent la paix romaine, dans la mesure où ils s'abstiennent des cérémonies communes. Ils refusent tous les actes festifs qui scellent le vivre ensemble dans l'Empire romain. Ils sont donc affrontés à une hostilité terrible, où on a du mal à cerner exactement ce qui se joue lorsqu'ils refusent de participer aux célébrations des grandes fêtes. Ils contestent l'ordre religieux, ils mettent également en danger l'ordre social qui était totalement lié à l'époque. Donc, ils sont dans la plus grande précarité, ils doivent souvent se cacher. Mais pourtant, peut-être même que c'est ces persécutions qui font qu'ils vont encore plus se disperser et encore plus répandre la bonne nouvelle. Malgré tout et contre tout, ils sont des pierres vivante, qui s'appuie sur cette pierre vivante qu'est le Christ. Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais élue et si précieuse aux yeux de Dieu. L'opposition ainsi entre ces termes, eh bien, nous pouvons l'entendre entre le refus des hommes, d'accueillir la lumière, comme il est dit au début de l'Évangile selon saint Jean, et le oui de Dieu. C'est de cette opposition et de ce oui de Dieu que pourra naître un avenir. Dieu est allé chercher la pierre rejetée, celle que l'on a placée à l'angle pour élever son projet pour l'humanité. Et nous, les hommes, nous sommes invités à avancer à notre tour, comme des pierres vivantes également, comme des joyaux qui brillent pour l'humanité, comme, pour reprendre les termes de l'évangéliste Matthieu, des lumières du monde. D'ailleurs, il l'a dit, vous êtes les lumières du monde, juste avant d'énoncer justement ce « aimez vos ennemis ». C'est dans cette appartenance commune, dans ce témoignage, que nous pouvons trouver le réconfort. Mais le travail que fait l'auteur de cette épître dans ce passage est tout à fait exemplaire. Il tire son message de l'Écriture, de cet ancien, de ce que nous nommons l'Ancien Testament, mais en même temps, il interprète cette Écriture ancienne à la lumière des faits nouveaux. Et nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons interpréter notre quotidien, notre actualité, eh bien, à la lumière de cette Écriture qui, bien qu'ancienne, est également, elle, toujours vivante aussi. Cette interprétation, cette lecture innovante nous invite, nous, à inscrire nos pas également dans ceux des auteurs de la Bible qui interprètent déjà à la lumière des faits qui leur sont contemporains. Je reviendrai une dernière fois au peuple arménien, en réalité, qui sont très fiers parce qu'ils sont le premier peuple chrétien, un premier État chrétien en 301, bien avant les Romains. Mais ce qui va avancer, ces Arméniens, ces chrétiens persécutés, et puis comment ne pas penser aux protestants qui ont été eux-mêmes persécutés, particulièrement au moment de l'abolition de l'édit de Nantes, eh bien, c'est la foi. C'est la foi qui permet d'avancer. C'est la foi qui permet d'espérer. Non pas une espèce de foi qui serait opium du peuple ou quelque chose, on croirait en quelque chose de miraculeux. Non. La foi, c'est la capacité d'espérer, de vivre aujourd'hui à la lumière des promesses de Dieu, à la lumière des besoins des générations futures. La foi, ce n'est jamais faire abstraction de notre réalité, mais c'est la voir cadrée, plus large que jusque ce que nous avons devant les yeux. C'est croire que quelque chose de meilleur peut arriver. C'est même croire, justement, qu'au cœur de nos ennemis, il y a quelque chose de bien meilleur que ce que nous voyons. Car, pour cela, nous ne sommes pas seuls. Autour de nous, il y a ici et maintenant des communautés rassemblées, des hommes et des femmes, de bonne volonté, comme on dit dans la Bible. Nous sommes entourés de témoins de la foi à travers l'histoire, mais encore aujourd'hui. Et nous nous inscrivons dans cette nuée de témoins. Surtout, nous ne sommes pas seuls, car Dieu est avec nous. Il a lui-même pris un risque immense dans l'espérance, par amour pour nous. Ce risque, c'est d'avoir assumé notre vie et notre mort en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. La mort de Jésus en croix nous libère de la fatalité du mal, de la fatalité du péché, et sa résurrection nous ouvre la voie à la réconciliation, à la vie, à l'espérance. Il est bien difficile de définir ce qu'est la foi, mais un verset nous dit ce qu'est exactement la foi. Dans l'évangile de Luc, on entend « ne crains pas, mais crois seulement ». C'est bien cela la foi, ne pas craindre, ne pas avoir peur, continuer à avancer malgré tout et contre tout, y compris dans les moments les plus durs. C'est prendre le risque, ce risque que des milliers d'hommes, encore aujourd'hui, d'hommes et de femmes, prennent pour défendre tout simplement celui qui est la pierre rejetée, mais la pierre choisie, une pierre vivante, lui qui nous empêche toujours de nous pétrifier. Comment ne pas soutenir à notre mesure toutes ces populations ? Nous qui avons choisi de ne pas rejeter, mais au contraire d'accueillir Christ comme pierre vivante, comme pierre qui nous donne vie à nous, comme fondement de nos vies, de nos communautés, de le reconnaître comme étant la vie. Nous sommes, nous aussi, vous aussi, vous êtes appelés à être des pierres vivantes. Nous sommes appelés à ne jamais vivre dans le passé, mais à faire, au contraire de notre histoire, une force pour l'avenir, pour la transformation, pour la possibilité de la conversion. Car si ce passage de l'Épître nous propose une interprétation de l'Écriture, à la lumière de l'événement Christ, il nous invite aussi à construire notre communauté, ici et dans le monde, sur cet événement. Et si ce Christ est la pierre angulaire, il est aussi le tout vivant, il est espérance, il nous invite à notre tour, nous, à la vie, à l'espérance. Nous rappelons que nous ne sommes pas des pierres figées, nous rappelons que les pierres doivent être vivantes, c'est-à-dire à son service, au service de l'annonce de la bonne nouvelle, de l'annonce de l'Évangile. Nous rappelons que la communauté, c'est la vie et l'espérance qui fait que nous avons été appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et c'est en témoignant de cela que nous vous pouvons désormais être appelés peuple de Dieu, pierre vivante. Amen.